jetait l'effroi parmi les assistants. Cependant, Chéron de Mégalopolis, l'oracle de Delphes que Philippe envoya consulter après le songe qu'il avait eu, lui rapporta un ordre du dieu de sacrifier à Jupiter Ammon et de rendre à ce dieu des honneurs particuliers. On ajoute qu'il perdit un de ses yeux, celui qu'il avait mis au trou de la porte, d'où il avait vu Jupiter couché auprès de sa femme sous la forme d'un serpent. Olympias, au rapport d'Ératosthène, ne découvrit qu'Alexandre seul, lorsqu'il partit pour l'armée, le secret de sa naissance et l'exhorta à n'avoir que des sentiments dignes de cette auguste origine. D'autres, au contraire, prétendent qu'elle avait horreur de cette fable et que, la regardant comme une impiété, elle disait à cette occasion « Alexandre ne cessera-t-il pas de me susciter les querelles avec Junon ?» Alexandre naquit le 6 du mois d'Hécatombéon, que les Macédoniens appellent Loïs, le même jour que le temple de Diane fut brûlé à Éphèse. Égésias de Magnésie fait sur cet événement une réflexion si froide qu'elle aurait pu éteindre cet incendie. « Il ne faut pas s'étonner, dit-il, que ce temple ait été brûlé, Diane étant occupée ce jour-là auprès d'Olympias pour la naissance d'Alexandre. Tous les mages qui se trouvaient alors à Éphèse, persuadés que l'embrasement du temple était le présage d'un plus grand malheur, couraient dans les rues en se frappant le visage, en criant que ce jour avait enfanté pour l'Asie le fléau le plus redoutable. Philippe, qui venait de se rendre maître de Potidée, reçut vers ce même temps trois heureuses nouvelles. La première, que Parménion avait défait les Illyriens dans une grande bataille. La seconde, qu'il avait remporté le prix de la course des chars aux Jeux Olympiques. La troisième, qu'Alexandre était né. La joie que ces trois nouvelles devaient naturellement lui causer furent encore augmentées par les devins qui l'assurèrent qu'un enfant dont la naissance courait avec trois victoires serait lui-même invincible. La forme de son corps n'est nulle part mieux représentée que dans les statues de Lysippe, le seul statuaire auquel Alexandre eut permis de le jeter en fonte. Plusieurs de ses successeurs et de ses amis affectèrent bien dans la suite d'imiter les manières de ce héros, mais Lysippe fut le seul qui rendit parfaitement l'attitude de son cou, qu'il penchait un peu sur l'épaule gauche, et la douceur qui paraissait dans ses yeux. Appel, qui le peignit sous la forme de Jupiter armé de la foudre, ne sut pas saisir la couleur de son teint. Il la fit plus brune et plus sombre qu'elle n'était naturellement, car Alexandre avait la peau très blanche, et cette blancheur était relevée par une teinte d'incarnat plus marquée sur son visage et sur sa poitrine que dans le reste du corps. J'ai lu dans les mémoires d'Aristoxène que sa peau sentait bon, qu'il s'exhalait de sa bouche, de tout son corps, une odeur agréable qui parfumait ses vêtements. Cela venait peut-être de la chaleur de son tempérament, qui était tout de feu, car selon Théophraste, la bonne odeur est la suite de l'élaboration parfaite que la chaleur naturelle donne aux humeurs. Ainsi, les pays les plus secs et les plus chauds sont ceux qui produisent avec plus d'abondance les meilleurs aromates, parce que le soleil y pompe toute l'humidité qui, répandue sur la surface des corps, est un principe de corruption. C'était sans doute de cette chaleur naturelle que venait le courage d'Alexandre et son goût pour le vin. Il fit connaître dès son enfance qu'il serait tempérant dans les plaisirs, impétueux et ardent pour tout le reste. Il était peu sensible à la volupté et n'en usait qu'avec modération. Au contraire, l'amour de la gloire éclatait déjà en lui avec une force et une élévation de sentiments bien supérieure à son âge. Mais il n'aimait pas toute espèce de gloire et ne la cherchait pas indifféremment en tout, comme son père Philippe, qui ambitionnait, avec une vanité de sophiste, celle de l'éloquence, et faisait graver sur sa monnaie les victoires qu'il avait remportées aux Jeux Olympiques. Les amis d'Alexandre lui demandèrent un jour s'il n'irait pas disputer à ces Jeux le prix de la course, à laquelle il était très léger. « Je me présenterai, leur dit-il, si je devais avoir des rois pour rivaux. » En général, il eut de l'éloignement pour les exercices des athlètes, et quoiqu'il eût souvent fait célébrer des Jeux où il proposait des prix, pour les poètes tragiques, pour les joueurs de flûte et de lyre, et même pour les rhapsodes, quoiqu'il eût donné des combats de gladiateurs et de toute espèce d'animaux, jamais il ne proposa, du moins avec plaisir, les combats du ceste et du pancratium. Il reçut un jour des ambassadeurs du roi de Perse, qui vinrent en Macédoine pendant que Philippe était absent. Il ne les quitta pas un instant et les charma par sa politesse. Au lieu de leur faire des questions frivoles ou puériles, il s'informa de la distance où la Macédoine